Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un tout petit instant le journal. Et juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des idées. Et ce soir, elle est partout dans notre quotidien. L'intelligence artificielle, dans nos voitures, dans nos smartphones, dans nos entreprises. C'est un outil fantastique qui aide les humains à devenir plus productifs et si possible à vivre une vie meilleure. Sauf qu'entre de mauvaises mains, elle peut aussi devenir un outil redoutable. Bill Gates, Stephen Hawking, Elon Musk estiment même qu'elle peut devenir une menace pour l'humanité. On en débattra avec nos invités à partir de 19h20. Mais d'abord le point sur info avec vous, Christophe Lamarre. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Fin de l'aventure pour les handballeurs français, éliminés en demi-finale du mondial par la Suède. Axel May dès le début de ce journal. Conseil de défense à l'Elysée, le dernier avant la prise de parole d'Emmanuel Macron.
Après BioNTech et Moderna, AstraZeneca, troisième vaccin autorisé ce soir par l'Europe. Alors ce n'est pas une surprise, mais il a quand même fallu lever quelques doutes.
Et où en est la campagne de vaccination en France? 1 350 000 personnes ont reçu une première dose. Le gouvernement joue la transparence et rend public les chiffres. Tous les chiffres.
Pékin s'attaque au grand capitaine d'industrie chinois et n'hésite pas à faire exécuter ceux qui enfreignent ces règles. Ce sera l'œil de Didier François tout à l'heure dans ce journal.
C'est le succès télé de ce début d'année. La série Lupin cartonne sur les écrans. Il n'est pas le seul. Un musicien français qui a signé la bande-annonce en profite aussi.
La météo, Anissa Haddadi, encore beaucoup de pluie demain.
Oui, d'ailleurs, sachez Isabelle que lors de ces dernières 24 heures en Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie juste sur la journée d'hier. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque demain la journée sera encore très pluvieuse et nous avons 24 départements placés en vigilance orange. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ils pouvaient écrire une nouvelle page de leur grande histoire, mais les handballeurs français sont tombés sur plus fort qu'eux. Axel May, la France qui est éliminée en demi-finale du mondial de handball face à la Suède. C'est peut-être quand même une petite surprise.
Oui, c'est une petite surprise. Deux équipes en reconstruction, en reconquête. Et ce sont les Scandinaves qui ont su s'imposer. Ils ont mené les débats quasiment tout le match. Les Bleus ont couru après le score, sont revenus à un but en début de deuxième mi-temps et puis sont retombés dans leur travers, vendangeant un nombre impressionnant de ballons en attaque. Leur défense, privée de Lucas Karabatic blessé, puis d'Adrien Dipanda sur carton rouge, a pris l'eau. Les gardiens Gérard et Gentil n'étaient pas dans un bon jour et le résultat est là. 32-26 pour les Français qui étaient quand même un petit peu favoris avant le début de cette demi-finale, comme lors du Mondial 2019, comme lors de l'Euro 2018. Les Français échouent donc à ce stade de la compétition. Et pour la médaille de bronze, ils affronteront, attention, ça va être compliqué dimanche, soit le Danemark, champion du monde en titre, soit l'Espagne, double championne d'Europe.
Merci Axel, mais allez, on les félicite quand même, les Français. Bravo à eux.
On vous le disait dans le journal de 18h, Emmanuel Macron a réuni un nouveau conseil de défense sanitaire ce soir.
Et tout le monde s'attend à ce que le président annonce un reconfinement. En attendant, Jean-Rémy Baudot, est-ce que l'on sait de quoi il est question actuellement dans ce conseil de défense?
Eh bien oui, Isabelle, l'enjeu de ce conseil de défense très restreint, convoqué dans l'après-midi, c'est d'étudier les données de ces derniers jours et de répondre en fait à quelques questions précises. Le couvre-feu à 18h a-t-il été efficace? Quelle est la circulation actuelle des variants du Covid en France? Et dans quel état est le pays socialement et même psychologiquement? Ces réponses, elles sont à trouver dans les échanges que le président et le gouvernement ont eus ces derniers jours. Psychologues, pédopsies, élus, représentants des syndicats, laboratoires pharmaceutiques, ces données, elles seront complétées par les remontées gouvernementales. Les ministres qui prônent un strict confinement pour répondre à l'urgence sanitaire, ceux qui demandent qu'on laisse les classes ouvertes, ceux qui appellent à ne pas détruire les emplois. Il faut savoir quand et comment casser la courbe de l'épidémie, me confiait hier une ministre. Une décision finalement plus politique que uniquement sanitaire, puisqu'il s'agit de l'état du pays. On attend une prise de parole d'Emmanuel Macron, probablement avant la fin du week-end.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. L'autre info de la soirée, c'est l'Europe qui dit oui à AstraZeneca.
Et un oui sans condition, puisque la mention réservée aux 18-65 ans disparaît. En clair, toute personne majeure pourra se faire vacciner. C'est une bonne nouvelle pour le laboratoire. L'agence du médicament l'autorise pour tout le monde, Isabelle Horry.
Et oui, ce verdict de l'agence européenne était très attendu et donc elle autorise ce troisième vaccin à partir de 18 ans. Pas de limite pour les plus de 65 ans ou même de 55 ans. Mais Bruno Cepodès, l'un des experts européens, admet que les données ne sont pas encore assez précises pour les plus âgés.
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'efficacité du vaccin chez les plus de 55 ans. On s'attend à au moins une certaine protection dans ce sous-groupe, même si à l'heure actuelle, on ne peut pas estimer le niveau exact de cette protection.
Voilà, en France, il va falloir maintenant attendre l'avis de la Haute Autorité de Santé.
Et Isabelle, pour autant, le dossier AstraZeneca n'est pas clos, hein.
Et non, c'est une chose hein, d'avoir le feu vert de l'agence, mais encore faut-il avoir les doses de vaccin. Et sur ce front-là, pas de bonnes nouvelles. En février-mars, AstraZeneca devrait livrer moins de 5 millions de doses en France, qui en attendait 9. La Commission européenne est furieuse, elle va contrôler les exportations du groupe. Elle veut être sûre que les doses destinées aux Européens ne partent pas vers le Royaume-Uni. Là-bas, pas de retard pour les livraisons. En plus, les deux usines britanniques du groupe tournent à plein régime. Or, ce que révèle le contrat entre la firme et Bruxelles, rendu public aujourd'hui, eh bien c'est que ces usines sont censées produire aussi pour l'Union européenne. Mais voilà, pour le moment, AstraZeneca fait la sourde oreille.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. En France, la campagne de vaccination avance, même si les retards de livraison freinent les injections.
Et quelques régions sont en rupture, c'est notamment le cas des Hauts-de-France. Il n'empêche, 1 350 000 personnes ont reçu la première dose. Victor Dolande, on en a davantage sur le profil d'ailleurs de ces patients.
Oui, depuis hier, le gouvernement a rendu public toutes les données sur la vaccination, département par département. Ainsi, on connaît les tranches d'âge des Français qui ont reçu la première injection. Et à la lecture des chiffres, on s'aperçoit que 8% des personnes de 75 à 79 ans ont été vaccinées et 10% des plus de 80 ans, ce qui colle parfaitement à la stratégie de la Haute Autorité de Santé, rappelez-vous, de protéger les personnes les plus vulnérables face à la maladie. Au rang des bonnes nouvelles, la France vaccine ces derniers jours beaucoup plus que l'Allemagne ou l'Italie. Elle rattrape son retard. Mais la campagne va connaître un coup de frein dans les prochains jours et pour cause, sur 1 350 000 personnes qui ont reçu la première injection du vaccin, un peu moins de 14 000 personnes ont déjà reçu leur appel. Il va donc falloir réserver des doses dans les prochaines semaines pour tous les Français qui ont déjà reçu une injection. Car le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé, c'est 3 à 4 semaines maximum entre les deux injections.
Victor Dolande, autre conséquence de cette pandémie et des restrictions qui l'accompagnent, c'est la baisse de la mortalité routière.
Oui, 2250 morts sur les routes de France l'an dernier, moins 21% selon donc les chiffres de la sécurité routière qui l'attribue bien sûr à la faiblesse du trafic en raison notamment des confinements du printemps et de l'automne. Europe 1, il est 19h07, c'est la suite de votre journal Christophe Lamarre avec dans l'actualité également l'exécution d'un grand patron en Chine. Il était accusé de corruption et de polygamie. Alors on a un peu de mal à y croire, mais ce sont bien les autorités qui l'annoncent et on en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'est une première hein, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir.
Oui, c'est surtout un signal tout à fait inquiétant parce qu'il vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte pour s'assurer du contrôle sur l'ensemble des activités du pays et particulièrement sur son secteur économique. L'argument de la lutte contre la corruption a toujours été une de ses armes favorites pour affermir son emprise sur le parti communiste d'abord, puis sur l'appareil d'État, puisque effectivement le président Xi Jinping a lancé cette campagne anticorruption dès qu'il a été nommé secrétaire général en 2012, ce qui lui a permis d'écarter d'abord tous ses concurrents, et puis les membres du parti considérés comme trop tièdes, puisqu'ils sont quand même plus d'1,5 million à avoir été condamnés lourdement par la justice pour des charges de malversation. Il y a même déjà eu des peines de mort prononcées et exécutées, mais jusqu'à présent, elles ne frappaient que les hauts dignitaires de l'appareil politique ou sécuritaire, et pas les hommes d'affaires. Ça, ce qui est nouveau, c'est que depuis le mois de septembre dernier, la campagne anticorruption cible directement les grands patrons, les dirigeants des plus grands groupes privés chinois. Le cas le plus symbolique étant la disparition de Jack Ma, vous savez, le fondateur d'Alibaba, le plus grand groupe de commerce en ligne au monde, richissime, ultra puissant, très lié au régime. Il se croyait donc permis de critiquer les orientations du régime en matière de prêts bancaires. C'était le 24 octobre à Shanghai. Et depuis, il a disparu. On ne l'a plus revu en public.
Alors Didier, ce qui ne veut pas dire que la corruption n'existe pas, bien sûr.
Alors non, c'est même un système en Chine. Lai Xiaoming, celui qui, l'homme d'affaires qui vient d'être exécuté, avait amassé des millions en pot de vin quand il était à la direction de la Banque centrale. Seulement, à l'époque, il n'était pas en disgrâce. Il savait se taire et redistribuer. En fait, ce que le pouvoir communiste cherche à neutraliser, ce n'est pas la corruption, c'est la critique. On va prendre des exemples. Rian Jingqiang, fils de ministre, magnat de l'immobilier, 18 ans de prison pour corruption après avoir questionné dans un article la gestion gestion de la crise sanitaire. Lee Wong-king, banquier, 20 ans de prison pour fraude et subversion après avoir soutenu des mineurs de charbon qui étaient touchés par une grave maladie des poumons. Ensuite, Gang Jeon-hwa, grande éditrice, détenue sans procès pour opération commerciale illégale parce qu'elle avait soutenu financièrement des auteurs dissidents. Et puis Sun Da-woo, gigantesque producteur de poulets et de cochons, arrêté pour avoir alerté les autorités sur une épidémie de fièvre porcine. Donc ce sont des exemples quand même bons à garder à l'esprit quand l'Europe semble croire qu'on pourrait commercer normalement avec la Chine.
On les garde à l'esprit, c'est promis. L'œil de Didier François, tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci beaucoup Didier. On reste en Chine d'ailleurs, on va parler toujours de ces grands patrons chinois avec l'effondrement d'un géant du tourisme, Christophe.
Oui, le chinois HNA enclenche une procédure de faillite. Le groupe présent également dans l'aéronautique et la logistique est endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Un trou béant qui inquiète Pékin en raison de ses difficultés à rembourser ses créanciers. Les autorités chinoises parlent d'un risque systémique. Allez, on passe à la série et sur le plus grand des voleurs, la série Lupin avec Omar Sy qui fait un carton sur Netflix. Et il y a Isabelle, un musicien, qui lui dit merci.
Moi, je l'ai vue, cette série, elle est très bien. Et il faut croire qu'elle transporte tout ce qu'elle touche en or. Après avoir fait décoller les ventes des romans de Maurice Leblanc, le programme attire la lumière sur Cascadeur. Donc, son titre, ça s'appelle Meaning. Et vous l'avez manifestement beaucoup aimé, Angèle Châtelier.
Cette chanson apparaît à la fin de l'épisode 4 de la série Lupin. Et dans les jours qui ont suivi sa sortie, elle est devenue sur Shazam, l'application qui permet de retrouver le titre d'une chanson, l'une des plus recherchées, plusieurs centaines de milliers de fois. Derrière elle, c'est Cascadeur, un musicien originaire de Metz, très discret, qui ne montre jamais son visage, caché sous un casque de moto. Ce titre, appelé Meaning, date pourtant d'il y a 10 ans. Elle était cachée à la toute fin de son premier album, qu'elle renaisse de ses cendres. C'est donc l'aubaine pour Alexandre Longo, alias Cascadeur.
Tout d'un coup, des personnes qui ont pu être sensibles à un moment dans un film, dans une série, vont commencer à se pencher vers quelqu'un et vers son travail. Donc c'est surtout ça, pour moi, le grand bénéfice. Je travaille depuis 2 ans sur mon nouvel album. C'est incroyable que finalement un morceau un peu fantôme va peut-être me permettre de continuer cette existence.
Mais ce n'est pas la première fois qu'il séduit. Meaning a déjà été utilisé dans une publicité pour des chocolats et s'entend dans le film Le sens de la fête, sorti il y a 4 ans.
Angèle Châtelier.
C'est vrai qu'elle me disait quelque chose, cette musique, mais j'ai revu récemment Le sens de la fête. Effectivement, c'est le moment où il s'envole, où ça finit mal. En tout cas, si vous avez été conquis par la série Lupin sur Netflix et que vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Maurice Leblanc, eh bien, cette nuit, sur Europe 1, on vous propose d'écouter une lecture du premier livre, le tout premier livre des aventures du gentleman cambrioleur. Lecture faite par le comédien François Berland. C'est donc ce soir sur Europe 1, événement à partir de minuit. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. Anissa Haddadi, de la pluie forte même, de la neige et des vents forts aussi, avec en prime des avalanches pour le programme de notre journée de demain.
Un programme chargé, hein, et un programme très violent effectivement, avec 24 départements placés en vigilance orange actuellement, 2 départements des Hauts-de-France pour neige, de l'Alsace jusqu'aux Hautes-Alpes. Nous avons de la pluie, un risque de crues, d'inondations et toujours ce risque d'avalanche. Des vents forts pour les 2 départements corse et puis des risques de vagues submersion dans le nord-ouest. Alors demain, la pluie va toucher toutes les régions sans exception. Le pourtour méditerranéen reste au sec le matin avant l'arrivée de la pluie au fil des heures. Et puis, dans le nord, la pluie se transforme en neige au fil des heures sur le Pas-de-Calais et le nord. Soyez prudents aussi si vous nous écoutez du côté des frontières du Benelux. Là aussi, vous aurez de la neige demain matin, 5 à 3 cm effectivement dans l'est. Et la prudence est donc de mise toute la journée dans toutes les régions. Les températures, comptez 5 à 11 degrés demain matin, ça reste doux pour la saison. Et 7 à 17 degrés, ça baisse très légèrement dans l'après-midi. Midi avec 14 degrés pour Paris.
Merci Anissa, on vous souhaite un excellent week-end.
Bon week-end Isabelle.
19h14 sur Europe 1. On va s'intéresser dans un tout petit instant à l'intelligence artificielle. Enjeu de pouvoir, peut-elle représenter une menace? Sommes-nous suffisamment armés face à la Chine ou aux États-Unis? On voit ça dans 3 minutes parce que d'abord c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Je crois que ce soir, vous voulez rendre un hommage. Hein.
Oui, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui nous a quittés et dont l'existence a été exemplaire et le combat décisif. Chaque jour, il a célébré la vie et durant ces dernières années, il a su se battre contre les intolérants jusque devant les tribunaux, jusqu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, afin que lui et ses semblables continuent à célébrer la vie. Il a fait ça naturellement, simplement, sans se hausser de la crête. Je parle de Maurice.
La crête, Maurice. Maurice, c'est le fameux Maurice de l'île d'Oléron, hein, c'est ça ?
Exactement, le coq Maurice, un coq qui s'est éteint, mais qui laisse une trace lumineuse derrière lui.
Alors vous m'apprenez ce soir la mort de Maurice, c'est bien triste. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous pouvez nous rappeler son histoire ?
En 2019, des citadins qui avaient acheté une résidence secondaire à la campagne avaient accusé Maurice de chanter à l'aube. Maurice les gênait, ces pauvres urbains. Commença donc la lutte de l'ego contre l'ergo. Ils exigèrent la mort du coq, autant dire la mort de la campagne, où ils étaient pourtant venus se réfugier. De même que certains enfants croient que les poissons sont carrés et déjà panés dans la mer, des adultes ignorent que depuis 100 000 ans, même avant d'habiter des fermes, les coqs accueillent l'aurore. Est-ce que c'est un cas unique ? Pas du tout. La sottise est contagieuse, oui, il n'y a pas que la Covid. Des milliers de plaintes sont déposées chaque année contre les bouses de vaches qui sentent ou contre les cigales qui crissent.
À tel point que nos parlementaires ont même dû légiférer. Hein.
Le bon sens et la tolérance n'ont pas suffi, en effet. Il a fallu en arriver à une loi la semaine dernière pour dégorger les tribunaux de toutes ces plaintes et afin d'obtenir qu'on admette les paysans et les animaux.
Loi qui définit désormais un patrimoine sensoriel des campagnes, c'est ça ?
Oui, désormais les coqs peuvent chanter, les grenouilles croasser et le purin puer. Cette notion de patrimoine sensoriel des campagnes est à la fois magnifique et ridicule. Magnifique, car elle appelle au respect de la nature et des activités agricoles. Ridicule, parce qu'elle se bat contre l'enflure humaine avec les termes de l'enflure humaine, patrimoine, comme si les animaux, les plantes, la terre, les pierres, les eaux appartenaient légitimement à l'homme. Il s'en est emparé il y a longtemps, c'est tout, il les a conquis, il les a soumis. Ce fut un attentat, une prise de pouvoir. Et c'est au nom de cela qu'on exige le respect. L'homme vise l'homme, même quand il s'agit de la nature. Cela me laisse un goût un peu amer.
On vous comprend, mais allez, allez, réjouissons-nous quand même de l'essentiel.
Vous avez raison, Isabelle. Devant ces parlementaires français qui ont pondu cette loi, je dis cocorico. Et je voudrais donner la parole à l'autre coq célèbre avant Maurice, le coq Chanteclair, le héros d'Edmond Rostand.
Allez-y, Chanteclair qui fut la dernière pièce hein, d'Edmond Rostand, écrite après Cyrano de Bergerac.
J'ai tellement la foi que mon cocorico fera crouler la nuit comme une Jéricho. Et sonnant d'avance sa victoire, mon chant jaillit si net, si fier, si péremptoire que l'horizon, saisi d'un rose tremblement, m'obéit. Je chante. Vainement la nuit, pour transiger, m'offre le crépuscule. Je chante. Et tout à coup, je recule, ébloui de me voir moi-même tout vermeil et d'avoir, moi, le coq, fait lever le soleil.
Le coq Chanteclair d'Edmond Rostand, dans la voix d'Éric Emmanuel Schmitt ce soir. Merci à vous, Éric Emmanuel, pour cet hommage au coq Maurice et à tous les autres coqs. Hein, c'est de la lutte de l'ego contre l'ergo. Merci Éric Emmanuel Schmitt.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Merde. Europe 1, il est 19h20 et dans votre débat du Club des Idées ce soir, on va parler de l'intelligence artificielle. Vaste sujet, on en parle avec mes invités. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, dans le livre « Géopolitique de l'intelligence artificielle » est sorti hier. « Comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés ?» C'est aux éditions Erol. À mes côtés également Dominique Boulier, professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris, auteur de « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, l'ère du réchauffement médiatique » chez Le Passeur. Vous avez également écrit Sociologie du numérique chez Armand Collin. Également à mes côtés, Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bonsoir à tous les trois et merci beaucoup Bonsoir. De m'accompagner pour ce débat. Je vais avoir besoin de vous ce soir. Alors, on a tous une idée plus ou moins précise de la définition de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut quand même rappeler rapidement de quoi on parle ? Je vous donne la parole, Pascal Boniface, parce que vous faites ça de façon très grand public et je tiens à le saluer dans votre livre.
L'intelligence artificielle, c'est que la machine peut faire des tâches qui lui permettent de comprendre des choses comme l'humain. Et donc, et que la machine apprend aussi par répétition. Et donc, on montre la photo d'un chat à une machine et au bout de plusieurs fois, elle va repérer d'elle-même ce que peut être un chat. Et donc, elle va progresser comme l'humain progresse et elle va être capable de faire, de comprendre les choses et de progresser comme l'humain peut le faire. Alors, il y a toujours l'angoisse de dire qu'on sera doublé par la machine. Je pense que c'est une angoisse qui est excessive, mais l'intelligence artificielle permet effectivement de beaucoup plus communiquer, de faire des choses beaucoup plus rapidement. Et c'est un progrès, c'est une révolution qui est, à mon sens, plus importante, au moins aussi importante que ne l'a été la révolution industrielle au XIXe siècle.
Donc ça consiste à créer des programmes informatiques qui effectuent des tâches ou des opérations comparables à celles de l'esprit humain. Comment ça fonctionne, Dominique Boulier ? C'est-à-dire, ce sont des données que l'on fournit à la machine, que l'homme fournit et qui viennent nourrir la machine.
Tout à fait, c'est ça qui est important. C'est bien le terme d'apprentissage qui compte, et d'apprentissage automatique. D'ailleurs, le terme souvent plus technique qu'on utilise, c'est machine learning, donc l'apprentissage des machines. Le problème, c'est qu'effectivement, pour qu'elle apprenne, cette machine, il faut l'alimenter en données, en traces. C'est des choses quelquefois très, très élémentaires. Le temps que vous passez à lire une page sur votre liseuse, par exemple, et ça suffit. Donc, des petites traces, toutes les traces de nos comportements des machines, des objets, des systèmes, etc. Tout cela alimente, c'est ce qu'on appelle le big data, le big data, c'est ça. Et ça permet de calculer des corrélations et de tester des corrélations. C'est cela qui est particulier. Avant, il fallait qu'on ait un modèle pour dire, voilà, on va prévoir la façon dont les résultats qu'on va obtenir. Mais là, désormais, on ne les sait pas et on les lance et on calcule avec la masse de données. On arrive à pondérer les choses et à se dire, tiens, c'est cette corrélation qui marche. Donc, par exemple, je ne sais pas, pour prévoir anticiper ou prédire, parce qu'on parle de beaucoup de prédictions, prédire le prix de vente d'une maison, eh bien voilà, on va sélectionner telle surface de salle de bain, je dis n'importe quoi, vous voyez, ou bien d'autres choses, et on va se dire, tiens, finalement, c'est cela qu'il faut anticiper, qui va être une valeur clé, une propriété clé qui va être retenue. Donc cet apprentissage suppose une grande masse de données, et tout dépend de la qualité des données qu'on lui fournit. Donc c'est ça qui est très important, et du type de données qu'on lui fournit. Et après, la puissance de calcul va tout faire. Donc, ça suppose effectivement d'avoir des processeurs particuliers, des algorithmes qui sont très sophistiqués pour le faire.
Donc, si je résume, Jean-Marc Vittori, ça permet de gagner en rapidité et en efficacité, l'intelligence artificielle.
Ça permet de faire toute une série de choses avec des machines qu'on ne pouvait pas faire autrement. Moi, je le replacerai en perspective. C'est la révolution numérique. Pour moi, c'est la troisième étape de la révolution numérique. La première étape, on a commencé avec l'ordinateur. L'ordinateur, ça permet de traiter des données. Et puis ensuite, on a eu Internet qui permettait de transmettre des données en quantité absolument colossale. Et donc, la troisième étape, c'est le big data. C'est une accumulation de données absolument extraordinaires qui peuvent être collectées par les hommes, mais aussi de plus en plus par les machines elles-mêmes. La liseuse, c'est pas un homme qui dit, qui repère que vous avez regardé, vous avez passé 45 secondes sur la page. C'est la liseuse qui peut envoyer cette information automatiquement. Et donc, ça permet, avec un traitement absolument colossal de données, à une vitesse qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant parce que les ordinateurs étaient moins puissants, ça permet de faire toute une série de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je voudrais citer un exemple tout simple. Quand dans votre smartphone, vous dictez quelque chose, il y a eu auparavant un processus d'intelligence artificielle pour reconnaître les mots. Et si vous faites ça depuis plusieurs années, vous avez pu constater que c'est devenu infiniment plus précis. C'est un processus qui va très, très vite.
Parce qu'au début, c'est vrai, ça écrivait un peu n'importe quoi. Moi, je dicte beaucoup sur mon smartphone et maintenant, il comprend ce que je veux dire. Elle est présente dans tous les domaines, l'intelligence artificielle, Dominique Boulier ?
Oui, a priori, il n'y a pas de raison de lui donner un créneau particulier. En revanche, c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont facilement automatisables, donc on appelle ça des faibles IA, des IA faibles plutôt. Et donc c'est assez facile de les automatiser puisque nous-mêmes déjà nous nous comportons quasiment comme des automates quand nous les faisons, quand nous trions un certain nombre de choses. Et bien ça, les machines font ça beaucoup mieux, effectivement. C'est la classification, c'est la base même de l'informatique. Et donc ça, ils font ça très bien. Et puis petit à petit, il y a des tâches qui sont elles-mêmes dans tous les secteurs qui commencent à être plus sophistiquées et qui vont donc relever d'un début de décision. C'est-à-dire, effectivement, il va faire des choix, il va pondérer, il va falloir évaluer. Et là, petit à petit, l'intelligence artificielle, parce qu'elle va tester beaucoup de corrélations, va est censée nous donner une aide à la décision en disant « mais là, vous voyez qu'il y a telle possibilité, telle autre, etc. » Ça, c'est le monde idéal. En réalité, on voit bien que c'est plus compliqué parce que pour faire ça, il faut entraîner énormément les logiciels, les logiciels avec ces grands systèmes de données. Et du coup, ça se limite quand même au travail possible de collecte de données. Il y a des domaines où on ne peut pas vraiment collecter toutes ces données-là. Et puis, il faut des armées de personnes, je dis bien d'individus, non pas seulement de logiciels, qui fassent le travail pour valider tout ce qui a été récupéré comme trace. Et une fois qu'on a fait ça, le système peut apprendre. Il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de tâcherons, comme on dit, qui sont derrière
pour
tout
que
ça.
La machine puisse fonctionner. On poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1, sur l'intelligence artificielle, et on se demandera s'il faut s'en méfier. Est-ce qu'elle peut être dangereuse pour l'humanité ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, et c'est la suite de notre débat ce soir sur l'intelligence artificielle, avec toujours à mes côtés Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, dont le livre Géopolitique de l'intelligence artificielle est sorti hier. À mes côtés également Dominique Boulier, professeur des universités en sciences, en sociologie à Sciences Po Paris, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Alors, on a vu tout à l'heure que l'intelligence artificielle était présente dans presque tous les domaines. Je voudrais qu'on écoute un extrait du reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, qui en 2019 était à l'hôpital de Valenciennes, où l'on testait justement une application qui, grâce à l'intelligence artificielle, permettait d'anticiper les admissions.
Une activité aux urgences calculée par le logiciel en fonction de la météo, de la période de l'année, des événements prévus en ville ou encore des données internes à l'hôpital. Ce matin, le docteur Maisonneuve peut prévoir les admissions de la journée.
Par exemple, là, il nous dit à 15h, il y aura un pic attendu à 51 patients au sein des urgences. Et on peut aussi prédire les admissions heure par heure.
On est en pleine crise du Covid en ce moment. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle nous aider ? Peut-elle prédire la fin de la pandémie, le nombre de morts ? Jean-Marc Vittori, c'est possible ça grâce à l'intelligence artificielle ?
Non, elle ne peut pas aider à prédire le nombre de morts ou la fin de l'épidémie. En revanche, elle peut nous aider à gérer cette épidémie. C'est ce qu'on voyait bien dans cet exemple. Hein. La question des admissions à l'hôpital aujourd'hui, c'est un sujet absolument majeur. Et donc, il y a eu par exemple des travaux qui ont été faits sur des données épidémiologiques pour aider à prendre des décisions, aussi pour allouer les ressources médicales, pour dire où est-ce qu'il faut qu'il y ait des médecins, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des infirmiers, des infirmières, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des aides-soignants, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des lits, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des respirateurs. Il y a des travaux qui ont été faits pour que toutes ces ressources qui sont indispensables dans le traitement de l'épidémie soient disponibles au bon endroit, au bon moment. Et puis, il y a aussi des expérimentations pour préciser les mesures de confinement. Vous avez bien vu que dans le premier confinement, ça a été assez brutal, bête et méchant, et assez catastrophique pour l'activité économique. On a reconfiné fin octobre, début novembre, et on a vu qu'on a fait un confinement beaucoup plus précis. Ces outils-là peuvent aider de manière tout à fait précieuse à ajuster, à optimiser. Ils sont très efficaces pour optimiser l'emploi des ressources, et dans une épidémie, optimiser l'emploi des ressources, c'est quelque chose de tout à fait important.
Et donc, l'intelligence artificielle, elle est utile aussi dans le monde de l'entreprise, Dominique Boulier ?
Oui, parce que dans tous les cas, toutes ces flux logistiques, là, par exemple, ce sont des choses qu'on peut optimiser, comme le dit notre collègue. Bon, effectivement, il y a vraiment là, beaucoup d'activités qui relèvent de ça. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'il y ait des données collectées et du passé. D'où le problème quand on est dans une crise. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne connaît pas, eh ben, on ne peut rien tirer. Bon, c'est ça là, aussi les limites qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que oui, quand on a du passé, quand on a des choses répétitives, ça, c'est le domaine le plus facile. Mais après, il y a des moments où on est carrément à l'inverse, on est dans des situations de crise. Mais dans les entreprises, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à de la prise de décision, disons, de relativement bas niveau, où on doit faire des choix, on doit pondérer des critères. Prenons même un exemple, par exemple, qui est plus sophistiqué, par exemple, dans les questions de jurisprudence. Bon, vous devez préparer un dossier juridique. Alors ça menace, les métiers juridiques s'inquiètent de cela. Parce qu'effectivement, il s'agit de passer en revue toute la littérature et de repérer les arrêtés, les décisions pardon, qui ont pu être pertinents pour le cas qu'on traite. L'aide d'une intelligence artificielle peut optimiser ce travail-là de façon extraordinaire, puisqu'on a des logiciels de traitement du langage naturel qui vous permettent de récupérer tous les mots qui vont vous permettre de dire « c'est cela qui peut être relié à cela ». Est-ce que du coup, ça veut dire que les entreprises doivent absolument à tout prix y aller dans un seul modèle ? Non, il y a plusieurs façons d'organiser le travail à partir de ce moment-là. Il y a une façon de répartir les choses, y compris dans les services d'urgence que vous évoquiez. Eh bien, il y a de toute façon une organisation particulière à prévoir pour que l'aide à la décision s'appuie sur une expertise des gens du domaine, d'une part, et puis ensuite sur une façon de répartir les tâches, etc. C'est très, très important qu'on conçoive dans chaque entreprise des services complets. C'est-à-dire pas seulement on dit « je donne à la machine et puis ça y est, je vais avoir une solution miracle ». Jamais. Ça n'existe pas. Il faut prendre le temps de bien organiser la délégation de tâches évidemment, ça suppose de la réorganisation. Mais pas forcément, d'une part, qu'on supprime toujours des postes, d'une part.
Oui, c'est ça, parce que c'est la question qu'on peut se poser aussi. On a la crainte, du coup, de la suppression de postes. Vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre, hein, Pascal Boniface.
Il y a des projections qui disent que 40 ou 50% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître, ou des emplois plutôt qui existent aujourd'hui vont disparaître. Vous parlez, effectivement, les avocats sont menacés, puisqu'il y aura des algorithmes qui peuvent prévoir à l'avance quelle sera l'issue d'un procès. Pour les médecins, les diagnostics peuvent être aidés par l'intelligence artificielle, mais du coup, il y aura peut-être moins besoin de médecins. La traduction automatique, c'est très bien, c'est pratique, mais bon, il y aura moins besoin d'interprètes. On ne parle pas, si des robots viennent livrer, tous ceux qui lient son livreur verront leur emploi disparaître, de même que les chauffeurs de taxi, etc. Donc, il y a une menace sur des millions d'emplois. Alors, c'est un peu...
À ce point-là, parce que rien ne pourra quand même remplacer le rapport humain, la relation humaine.
Oui, mais vous aurez besoin de moins de monde, parce qu'effectivement, il y aura toujours besoin d'instituteurs, d'infirmiers, etc., mais peut-être moins de médecins qui font des diagnostics, parce que la machine a plus de mémoire qu'un médecin et a une spécialité plus pointue qu'un médecin.
Mais est-ce que c'est pas plutôt un changement de métier? Le médecin, il sera de l'autre côté de la machine pour rentrer les données, justement?
Oui, mais je suis pas sûr que...
Je vous accorde, c'est pas tout à fait le même métier.
C'est pas tout à fait le même métier, en tous les cas. Ça nécessite, et moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette révolution numérique aura un changement à la fois géopolitique, mais aussi sociétal énorme, et en fait on n'en parle pas suffisamment. C'est qu'il faut anticiper tout cela. Parce qu'à l'inverse, on peut dire, tant mieux, ça va créer une production beaucoup plus importante, il est plus facile de produire, on peut avoir des rendements agricoles tout en respectant la nature plus efficients, on peut avoir des productions, on va plus vite les uns et les autres, parce que effectivement, la révolution numérique fait que des tâches qui étaient très très longues, même dans mon métier de chercheur, auparavant, il fallait dans les bibliothèques lire pendant des heures, chercher dans des bouquins. Nos métiers ont été changés par cela. Si vous pouvez très facilement trouver sur Internet le renseignement que vous cherchez. Mais il faut l'anticiper parce que ça peut à la fois être une sorte de corne d'abondance qui permet une production beaucoup plus importante et donc peut-être permettre à beaucoup plus de gens d'avoir accès aux éléments essentiels. Mais ça peut être aussi dans une perspective cauchemardesque, un monde dans lequel une poignée de gens accapare toutes les richesses et où des gens qui ne sont plus utiles à la société parce que ce sont des machines qui font ces fonctions à leur place, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que la tendance naturelle n'est pas à la répartition égalitaire?
On va revenir sur cet impact géopolitique qui est très très intéressant. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des domaines aujourd'hui dans lesquels la machine dépasse déjà les humains, Dominique Boulier. C'est arrivé? On a vu comment s'appelait ce champion d'échecs là, qui a été battu par la machine Deep Blue.
Ça a toujours été le principe, si vous voulez, de donner des épreuves aux machines qui soient en fait des épreuves dans des domaines très limités. Parce que même si le jeu d'échecs est très sophistiqué, et désormais c'est le jeu de Go, qui est bien plus sophistiqué encore, on oublie de dire que quand même ce sont des mondes bien délimités et à un nombre de variables, de combinaisons extraordinaires, mais qui en réalité, l'environnement lui-même ne varie pas. Donc vous voyez que quand on dit que la machine surpasse l'humain, c'est toujours dans des environnements extrêmement contrôlés.
Dans certains secteurs,
donc il faut être prudent là-dessus, parce que de fait, c'est du coup, on tend quelquefois à dire, du coup, y compris on va jusqu'à l'intelligence artificielle qui pourrait avoir une conscience ou pourrait être quasi humaine. On est totalement, à mon avis, hors du coup quand on pense comme cela. En réalité, pour le moment, ce sont des domaines très pointus comme cela, ou alors des domaines que l'on peut automatiser parce qu'on a suffisamment de données et que l'on peut réellement tester beaucoup de choses. Mais en dehors de ça, c'est l'intelligence humaine, là, n'est pas du tout surpassée.
Pour l'instant, c'est l'homme qui gagne encore contre la machine. Et on en est où, en France, de l'intelligence artificielle? Je me souviens qu'on avait confié une mission à Cédric Villani, le mathématicien, lauréat de la médaille de Fields. Ça a donné quoi, cette mission?
Ça a donné un rapport parlementaire qui était comme un signal d'alarme sur le fait que nous étions très en retard et qu'il n'était pas tout à fait normal que nous soyons en retard parce que nous avons des filières de mathématiciens dont Cédric Villani est un exemple, des écoles d'ingénieurs qui sont de première qualité, qui sont dans les premiers rangs mondiaux. Mais ensuite, on est un peu comme une sorte de poulinière qui alimente les grands groupes parce que très vite, les jeunes ingénieurs qui sortent de nos écoles trouvent qu'ils ont plus de facilité à travailler pour les grands groupes étrangers. Et donc, il y a des milliers de Français qui sont partis dans la Silicon Valley ou qui maintenant restent en France, mais qui sont employés par les filiales des géants digitaux américains ou maintenant chinois, puisque Huawei est également là. Et donc là, il y a un vrai défi parce qu'on n'arrive pas à conserver les talents. Nous avons les talents, mais ils n'ont pas les moyens de s'exprimer pour des questions de rémunération et pour des questions... En fait, pourquoi ils partent? C'est à la fois pour être plus payés, mais aussi pour avoir les moyens de travailler, qui sont plus importants dans ces structures-là que dans le tissu français. Et donc là, il faut effectivement faire un effort. On a insuffisamment investi en France, mais également en Europe. D'ailleurs, c'est à la fois un problème.
C'est quoi, dans la formation, on n'a pas assez investi?
Non, dans la formation, ça va. Même si on pourrait toujours faire mieux, mais c'est plutôt pour permettre aux gens que l'on a formés d'exercer leurs compétences en France et de continuer à travailler pour des groupes français.
D'accord. L'intelligence artificielle sera la base de la puissance de demain, si on vous comprend bien, Pascal Boniface. Le PDG de Google dit qu'elle aura un impact plus important que l'électricité ou le feu. C'est pas rien. Et je voudrais, avant qu'on poursuive ce débat, qu'on écoute Bill Gates. Voilà ce qu'il disait il y a 2 ans.
Le monde n'a presque jamais eu de technologie à la fois aussi prometteuse et dangereuse que l'intelligence artificielle. On a eu les armes atomiques, l'énergie nucléaire, et jusqu'ici tout va bien.
C'est fou quand même ce qu'il dit Bill Gates, lui qui a été l'un des premiers à profiter de l'intelligence artificielle.
Oui, effectivement, mais il faut que ça reste un serviteur, que ça ne devienne pas un maître, parce qu'effectivement, il peut y avoir des implications extrêmement fortes, à la fois sur le plan, effectivement, de l'emploi, sur le plan des libertés aussi. C'est toujours ce débat. Est-ce que ça donne à chacun d'entre nous les moyens d'être maître de notre information, de notre communication? Ou est-ce que c'est le moyen dont George Orwell n'aurait même pas pu imaginer lorsqu'il a écrit son livre 1984? Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une régulation. C'est que l'intelligence artificielle est un apport fantastique, mais c'est comme le capitalisme, c'est quelque chose de très bien à condition que ce soit régulé. S'il n'y a pas de régulation, nous pouvons être entraînés contre notre gré, ou plutôt sans le réaliser, à des extrémités qui seraient irrattrapables et extrêmement gênantes. Donc il y a effectivement, très franchement, c'est plutôt un avantage d'avoir l'intelligence artificielle, ça donne des possibilités, on peut grâce à cela vivre en bonne santé plus longtemps, donc qui peut s'en plaindre? On peut avoir à notre disposition plus de biens, on peut avoir plus de choix dans nos vies, mais à condition que cela reste maîtrisé par l'humain, effectivement, et que la machine ne s'emballe pas, et surtout que ça ne vienne pas créer une société inégalitaire à un point tel où des groupes privés deviendraient plus importants que les États, pratiqueraient une évasion fiscale king size et puissent occuper des fonctions régaliennes. Et là, récemment, on a eu Elon Musk qui s'allie à la NASA pour envoyer des gens dans l'espace. Vous avez Zuckerberg qui veut créer une monnaie. Alors, le fait de battre monnaie est quand même normalement une fonction régalienne. Et Bill Gates, on peut s'en féliciter, qui paye la note de l'OMS que les États-Unis ne peuvent plus payer. Ouais. Et donc, bon, maintenant, Biden est revenu. Donc, c'est très bien que Bill Gates donne une partie de son argent à des causes généreuses. Mais des sociétés qui n'existaient pas il y a 20 ans ont des PIB qui ont un chiffre d'affaires, ou plutôt une capitalisation, aujourd'hui supérieure au PIB de 150 États. C'est quand même un défi important.
Jean-Marc Vittori, Pascal Boniface nous dit qu'il faudrait une régulation. Mais comment est-ce qu'on fait pour réguler l'intelligence artificielle au niveau mondial?
Alors, réguler l'intelligence artificielle au niveau mondial, je pense que ce n'est pas possible en tant que tel. En revanche, on peut réguler les acteurs de l'intelligence artificielle, notamment, évidemment, ces grandes entreprises. Il y a toute une série de questions que pose le fonctionnement de ces grandes entreprises aujourd'hui. Il y a d'abord le fait qu'elles ont tendance à ne pas toujours respecter la concurrence en achetant notamment des petites pousses, des entreprises prometteuses, pour éviter qu'elles leur fassent de l'ombre plus tard. Donc il y a un vrai problème de concurrence. Il y a aussi un vrai problème d'optimisation, voire d'évasion fiscale. Ça pose toute une série de questions. Il y a de la réflexion en cours. Ça suppose de la coordination internationale. C'est compliqué. On le voit sur la question de la fiscalité. Les États-Unis avaient bloqué jusqu'à présent. L'une des questions que pose l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, c'est est-ce qu'il va changer de position là-dessus? Pour l'instant, ce n'est pas acquis. Kamala Harris a travaillé en Californie et elle est en très bonne relation avec les géants des GAFA, non? Il faut voir ça. Il y a des questions absolument majeures de régulation qui peuvent se faire sur les acteurs, les grands acteurs de ces technologies. Et c'est très compliqué, il faut de la volonté, il faut aussi de la compétence, parce que ces géants numériques ont embauché tous les gens qui connaissent le mieux ce dossier. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France. L'un des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, il travaille pour Facebook. Travaille en France, mais pour Facebook, c'est un Français.
On n'a pas l'impression qu'en France, en tout cas, on ait vraiment cette prise de conscience, ou est-ce qu'on sait que c'est un combat perdu d'avance? Dominique Boulier.
Alors, moi, je pense qu'il y a, il faut que l'Europe, justement, assume une position particulière dans ce domaine-là. Hein, parce que, en général, quand on est confronté à ce type de problème, ou quand on constate un déficit d'investissement et de compétition, de compétitivité dans ce domaine-là, on a tendance à vouloir copier les autres. C'est-à-dire, on va faire comme les autres. On va faire soit des grands programmes, soit surtout des grands ensembles à la Google. On va faire notre Google, par exemple. Mmh. Or, je pense que, justement, l'exemple qui a été pris, par exemple, pour le RGPD en Europe, qui était perçu comme anti-business, en réalité, on se rend compte que c'est une régulation des règles de privacy, donc de vie privée, qui est très importante parce qu'elle va organiser tout le marché de façon durable et va créer plus de confiance. Il faut qu'on garde cette philosophie-là pour que, y compris sur l'intelligence artificielle, on reste très exigeant, non seulement par rapport à la régulation des groupes en tant que tels, comme vous le disiez, mais aussi par rapport au fait que dans la façon dont on fait travailler les intelligences artificielles, eh bien, il va falloir obliger à rendre compte de la façon dont elles sont fabriquées. C'est ce qu'on appelle le machine learning ou l'interprétable, donc une intelligence artificielle interprétable. Actuellement, vous avez parlé de BitGaze, il se trouve que Microsoft, par exemple, il a une intelligence artificielle qui fonctionne en réseau de neurones, où il y a 1000 couches qui s'ajustent les unes les autres, etc. Donc, on ne perd plus personne. Alors, on dit que les régulateurs, eux, ne pourront pas y arriver, mais ceux qui ont développé eux-mêmes ces logiciels-là n'y arrivent pas à savoir exactement pourquoi elles prennent un certain nombre de décisions.
Donc, vous voyez ça fait un peu peur, ce que vous nous dites là, quand même.
Ouais. Ils s'en rendent compte. Ce n'est pas pour dire que tout d'un coup, ils sont complètement irresponsables, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Donc, dans toute la communauté des développeurs en machine learning, en intelligence artificielle, les gens se disent qu'il va falloir qu'on pousse vers quelque chose qu'on appelle du machine learning interprétable, des choses où au moins les informaticiens peuvent l'interpréter. Ça serait encore mieux si les experts des domaines pouvaient l'interpréter. Et ça serait encore mieux si justement l'Europe était capable de fixer un certain nombre de règles dans ce domaine-là, qu'on appelle de accountability, d'être capable de rendre compte de ce que l'on fait à travers ça, donc avec des audits, des logiciels, etc. Et que quand on utilise ça, et en particulier quand on vend ça aux services publics, par exemple, aux États, eh bien, ils soient capables d'aller voir ce qu'il y a dedans. Alors là, effectivement, ouais. il y a un problème de formation.
Donc ce que vous dites, c'est commençons déjà par l'Europe avant de s'intéresser au reste du monde. Pascal Boniface, vous étudiez dans votre livre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la course à la puissance que se livrent justement les pays. Pour vous, l'intelligence artificielle semble être devenue le nouvel horizon stratégique après le nucléaire et l'espace.
Ah oui, c'est peut-être le seul... S'il y a un point de vue commun entre le président américain, le président chinois et le président russe, c'est bien celui-là. C'est que celui, Poutine, a déclaré que celui qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde. Xi Jinping a dit que c'était vital pour l'avenir de la légitimité du Parti communiste chinois. Et Obama a dit, on a inventé Internet, il faut ceci à nous, il faut qu'on en garde. Donc, effectivement, et dans le grand duel géostratégique qui a lieu entre la Chine et les États-Unis, qui est le grand facteur géopolitique pour les années qui viennent, l'intelligence artificielle est au premier rang. Auparavant, on comptait le nombre d'armes nucléaires pour savoir la puissance des deux superpuissances. Aujourd'hui, c'est qui va gagner ce duel dans l'intelligence artificielle. Et on voit bien que Trump a lancé la bataille en voulant interdire les exportations vers la Chine, en voulant interdire aussi les importations de Chine. Les grands géants du digital, aussi bien d'ailleurs en Chine qu'aux États-Unis, ont protesté parce qu'eux, ils veulent avoir accès aux services de l'autre, parce que leur marché, Apple, vend beaucoup en Chine.
Évidemment,
donc, ils n'ont pas envie qu'on se fâche avec les Chinois. Mais c'est bien aussi sur ce terrain-là que se joue, parce que
Une guerre froide technologique qui a
fait,
déjà commencé.
Ça a des répercussions aussi bien civiles que militaires. Et donc, effectivement, si vous avez... Il y a aussi tout le débat des armes du futur qui seront guidées par l'intelligence artificielle, à savoir quel contrôle on pourra avoir dessus. Et donc, effectivement, certains disent que d'ici 2025, la Chine aura dépassé les États-Unis en termes d'intelligence artificielle. Il y a eu le moment Sputnik où, effectivement, leur champion du monde de Go s'est fait battre par une machine de Google. Et là, ils ont commencé à prendre peur et ils ont compris qu'il fallait mettre le paquet en termes d'investissement, de financement. Et ils ont un avantage comparatif important, c'est qu'en termes de données, effectivement, leur population est bien plus importante que la population américaine et qu'elle est moins rétive d'une façon ou d'une autre à communiquer ces données que les citoyens américains ou européens. Effectivement, les RGPD en Chine, ce n'était pas vraiment un sujet pour le moment. Quoi.
Et qu'ils ont déjà commencé à s'installer aussi en Afrique, où ils ont pris les Chinois l'ascendant sur les USA, c'est le cybercolonialisme.
Oui, comme pour les vaccins, effectivement. Et là, les Américains ont été absents de cela pendant 4 ans, puisque Trump voulait faire forteresse America et la nature ayant horreur du vide, la Chine s'est glissée dans tous les espaces qui étaient désertés par les Américains.
Stephen Hawking a déclaré que l'intelligence artificielle pourrait conduire à l'extinction de la race humaine. Le patron de Tesla, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Elon Musk, il a dit qu'elle pourrait devenir la cause de la troisième guerre mondiale. Ce sont des propos extrêmement forts que j'ai découverts en préparant cette émission. Jean-Marc Vittori, vous y croyez, vous ?
Oui, parce que c'est un outil extrêmement puissant. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Un marteau, c'est un outil aussi. Avec un marteau, vous pouvez enfoncer des clous et faire des meubles. Puis vous pouvez fracasser le crâne de votre voisin. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Vous pouvez faire des choses très bien et des choses très mal. Mais avec une puissance absolument extraordinaire. Avec une puissance sans équivalent jusqu'à présent. Plus fort que le nucléaire, ça nous paraît difficile à imaginer.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est le cas. Donc, tout dépendra de ce qu'on en fait. C'est la même chose d'ailleurs pour l'emploi. On peut faire de l'intelligence artificielle pour remplacer des emplois. On peut faire de l'intelligence artificielle pour augmenter l'efficacité des emplois. C'est des choix que nous devons faire.
Et alors, hormis la Chine et les États-Unis dont on vient de parler, où en sont les principales puissances mondiales en matière d'intelligence artificielle ? Dominique Boulier, par exemple, l'Europe en retard, pas en retard ?
Alors le problème, c'est que si on pose le problème en termes de nations, évidemment, on a les discours, il y en a les stratégies et les politiques et les investissements faits par les États. Il ne faut pas oublier...
C'est pour ça que je vous parle au niveau de l'Europe.
Parce que le problème, c'est que...
Et non pas de la France.
Quelles sont les grandes puissances de tout cela ? Ça a été dit par mes collègues tout à l'heure. Ce sont les grandes plateformes qui collectent en masse les données, qui ont les puissances de calcul, qui attirent les talents et qui ont une puissance de frappe financière extraordinaire. Donc, si on raisonne seulement sur le plan des nations... Évidemment, on va avoir une vision un peu faussée parce qu'au bout du compte, eh bien, les firmes en question vont être soit chinoises, soit russes, en l'occurrence pas russes d'ailleurs. Mais par contre, ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas une capacité russe dans ce domaine-là. Mm-hmm. Mais autrement, des grandes firmes, et c'est celles, les grandes firmes américaines et californiennes ou de la côte ouest, et c'est cela qui est en jeu en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tous les objectifs de régulation qu'on peut avoir, ça consiste aussi à prendre conscience que nous avons affaire à des puissances qui ne sont plus contrôlables par les États comme dans une géopolitique classique.
Et ces grandes firmes, pour conclure, je pense que ce que vous venez de nous dire, c'est que ces grandes firmes, elles pourraient devenir des puissances économiques supérieures même aux États et bouleverser complètement les relations internationales. C'était un débat vraiment passionnant. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont appris des choses grâce à vous. Merci à tous les trois. Je pense qu'on ne va plus regarder nos ordinateurs de la même façon ce soir. Dans un instant, on vous raconte, on change complètement de sujet, mais c'est très intéressant aussi, le tout premier défilé haute couture d'Yves Saint-Laurent. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des Idées. On va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Europe 1.
Bonsoir Diane Chenbouda.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
29 janvier 1962, c'était le tout premier défilé d'Yves Saint-Laurent dans sa maison haute couture.
Oui, le tout Paris se bouscule pour découvrir la première collection de celui qu'on surnomme le petit prince de la mode. Yves Saint-Laurent vient de lancer sa propre marque YSL, mais le jeune homme timide et surdoué a d'abord fait des merveilles chez Dior avec la ligne trapèze. Toute première collection en 1958, et premier succès. Le jeune Saint-Laurent impose déjà son style, comme il le confiait à Julien Besançon.
C'est une ligne qui est basée sur la construction de la ligne, de la pureté, l'équilibre de la robe surtout.
Et oui, l'élégance et la pureté des lignes, c'est la marque Saint-Laurent.
Yves Saint-Laurent qui surtout va complètement révolutionner la mode.
Oui, complètement. Il réinvente le caban en 62, la robe chasuble en 64, la saharienne en 68. Et en 66, il lance le premier smoking pour femmes qui va évidemment marquer l'histoire de la mode. C'est le clou aussi de son défilé en 68, selon Saint-Laurent lui-même.
Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un smoking d'alpaga noir, avec une veste très longue et un pantalon très très long et très large aussi, et qui ouvre sur une blouse absolument transparente où il n'y a absolument rien. Enfin, la femme est complètement nue, simplement voilée de mousseline noire.
Alors, Yves Saint-Laurent au micro de Guy Corville, il fait sensation cette année-là aussi avec sa robe de mariée très très légère, très audacieuse.
Et c'est plutôt le symbole de l'éternel féminin, c'est-à-dire que c'est une très jolie fille qui est nue et qui a simplement quelques fleurs et des cheveux pour la cacher aux endroits. Elle a simplement un voile rose de tulle rose qui la recouvre.
Yves Saint-Laurent qui va faire scandale en posant nu lui-même pour son parfum homme.
Et qui est devenu, Diane, une icône. Hein.
Complètement. Ses 30 ans de carrière sont célébrés avec Fast à l'Opéra Bastille en 1992. Notre spécialiste mode de l'époque, Laurence Ferrari, y était. Ses muses sont là, Zizi Jeanmaire.
C'est vrai qu'il a l'amour de la femme. Il sait la parer et la mettre en valeur.
C'est un jeune homme, dit de lui ce soir-là, Catherine Deneuve, fidèle parmi les fidèles.
J'ai pas envie de dire monsieur Yves Saint-Laurent, j'avais envie de dire que c'était vraiment un extraordinaire jeune homme.
Et Laurence Ferrari lui demande à Yves Saint-Laurent où il est allé chercher son inspiration pour cette collection 92.
Oh, je la trouve dans les pires tourments.
Les lignes sont toujours aussi pures, aussi sobres.
C'est ce que je préfère. C'est très difficile à faire.
Vous avez l'impression d'être un mythe ?
Ah oui, oui tout de même. Je n'en tire aucune fierté. C'est une constatation pure et simple.
Voilà, 10 ans plus tard, en 2002, Yves Saint-Laurent quitte la haute couture. Il a 66 ans.
J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé.
On se souvient de son défilé des adieux au Centre Pompidou, entouré de ses mannequins fétiches, Deneuve, encore elle, Laetitia Casta, et son premier mannequin noir, Mounia. 6 ans plus tard, on est en 2008, le plus grand couturier du monde est mort, titre Le Figaro, même si lui, Saint-Laurent, disait « Le plus beau vêtement d'une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. »
Le plus beau vêtement d'une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime, pas mieux. Hein. Merci beaucoup, Diane Shinoda, de nous avoir fait revivre Yves Saint-Laurent. Merci, Diane.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, ce sera le rappel de l'actu et puis place à la musique sur Europe 1 avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Je vous aime.
Isa. Moi aussi, je vous aime. Alors, ce soir.
Ah là là.
Dites-nous tout.
Eh bien, nous sommes vendredi.
Et oui,
chère Isabelle.
Ça ne m'a pas échappé.
Effectivement. Jour de sortie musique. Donc, il y aura ce soir dans l'émission, comme d'habitude, une sélection de nouveautés, notamment l'album live d'NTM, La Der, leur ultime concert de 2019. À Bercy, donc on va écouter ça. Mmh. Et puis, il y a en découverte un jeune homme extrêmement talentueux qui s'appelle Cheval Rex et qui est notre invité.
Le vent souffle si fort, il faudra trouver un toit pour te chauffer.
Il sort un album aujourd'hui, une merveille, qui porte un nom qui va vous plaire, je pense. Le disque s'appelle Providence.
Ah, c'est beau. Cheval Rex.
Cheval Rex.
Pas mal.
Il est l'invité de musique ce soir.
Et je vous souhaite une très très
Merci,
belle
Isabelle.
Soirée, Émilie. Pour ma part, je souhaite une très bonne soirée aussi à toute l'équipe qui œuvre en coulisses toute la semaine pour la préparation de cette émission. Christophe Carré, Marie-Baptiste Duhart, Vincent Thévenet, Anne-Claire Bazin et Victor Chabert. Je vous retrouve lundi dès 18h avec Julien Bugier, bien sûr. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer.
Europe 1, écoutez Le Monde Changer.